pas venu.
C'est pas venu.
Alors. Voilà, pardon pour ce contretemps. Donc, la conversion de Naaman. Naaman le Syrien. Alors, on va voir ce qui concerne la conversion de Naaman. Et puis après, on va balayer cette histoire ensemble avec quelques images pour que petits et grands puissent qu'on soit tous ensemble à suivre l'histoire. Et après, donc, je serai de quelques commentaires sur ce que nous apprend cette histoire. Et ensuite, on verra s'il y a quelques applications pour les papas. Donc voilà le programme, j'espère que ce sera pas trop chargé. Alors on va lire le début du texte, les trois premiers versets. Je vais lire dans la traduction, et vous pouvez suivre dans la Bible Second, ou la traduction que vous utilisez, je vais lire dans Parole de Vie. Le chef de l'armée du roi de Syrie s'appelle Naaman. C'est quelqu'un d'important pour son maître, le roi, qui est très bon pour lui. En effet, c'est par lui que l'Éternel a donné la victoire aux Syriens. Mais ce combattant courageux est lépreux. Or, des bandes de Syriens qui sont entrées en Israël ont fait prisonnier une petite fille. Celle-ci est devenue la servante de la femme de Naaman. Un jour, la petite fille dit à sa maîtresse, « Ah ! Si mon maître pouvait aller voir le prophète qui est à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Alors, voilà un petit peu le début de notre histoire, l'introduction. Alors, on va voir un peu les personnages. Ce qui concerne les personnages, donc. Alors notre histoire se situe entre l'an moins 800, moins 850. On est du temps juste au début du ministère d'Élisée sous le roi Joram d'Israël. Ça c'était pour nous situer un peu dans le temps. Et donc il est question d'un Naaman qui est un chef de l'armée. Hein. Naaman ça veut dire agréable. C'est un grand militaire. Il est favori du roi. Il est aimé. Par son pays, mais, il est lépreux. Il est lépreux, hein. Et, la lèpre, c'est une maladie qui est en voie de disparition parce qu'au XXe siècle, tout dernièrement, on a arrivé à trouver un traitement contre cette maladie. Alors, est-ce que la lèpre de l'époque était sensible à la lèpre de maintenant? Probablement non. Mais on sait que c'est une maladie qui touche la peau et qui rend les personnes, on peut le dire comme ça, laide. Et même repoussante pour leur entourage. Quand on les voit, on est repoussé. Hein, ça c'est Monsieur Ramoundakis qui était grec et qui a raconté son histoire dans les années 70-80. Et donc il a suscité... vraiment de la compassion pour le sort des lépreux en Europe. Hein, il était européen. Alors, c'est une maladie contagieuse qui se propage. C'est pas comme le coronavirus où on est contaminé et puis quelques jours après on développe la maladie. L'incubation peut durer des années. Et donc on la voit pas venir. Hein, on ne sait pas où on l'a attrapé et puis tout à coup on se retrouve avec des taches qui arrive sur la peau, et puis ça avance tout le temps, et rien ne pouvait l'arrêter. Mais on va voir la suite de l'histoire. Alors, en tout cas, Naaman, il est lépreux. Il est question de la Syrie, ou le royaume d'Aram, qui est en haut, là-haut, tout à fait en haut, vous avez Damas. Peut-être je peux faire avec la souris, là. Damas, et donc l'autre ville dont il est question, c'est Samarie, qui est un petit peu plus ici, mais il y a quand même 300 kilomètres à peu près à vol d'oiseau entre les deux villes. Dans notre texte, on a parlé également de l'Éternel, le Dieu d'Israël, le maître de l'univers. C'est lui qui a délivré, dit notre texte, les Syriens. Et pourtant, les Syriens étaient les ennemis d'Israël. Mais par Naaman, Dieu avait accordé la délivrance aux Syriens, les ennemis d'Israël. C'est déjà quelque chose de surprenant dans notre texte. Et un autre personnage, c'est la petite servante, qui a été capturée. Alors les Syriens sont venus, ils ont fait une rafle, une razzia, et ils ont emporté cette petite fille. Pourquoi faire ? Pour la vendre. C'est terrible. Pour la vendre comme une esclave. C'était une enfant. Le texte est clair là-dessus. C'était une enfant qui va se retrouver donc au service de l'épouse de Naaman. L'épouse de Naaman elle-même, on peut l'imaginer triste parce que son mari, voilà, il a la lèpre. Et c'est un poids sur toute la famille. Et puis il est question aussi d'un prophète qui est à Samarie. Il s'appelle Élisée et on va le voir intervenir plus tard dans l'histoire. Voilà un petit peu les personnages principaux. Et l'intrigue, le problème de Naaman, bien sûr, il a ses lèpres, il a tout ce qu'il faut, c'est un grand soldat. Mais voilà, il est lépreux. C'est le drame de cette famille. Il y a toujours des personnes qui ont peur de Naaman, peur de s'approcher de lui. Il y a toujours le risque de donner la maladie dans sa propre maison. Alors ici, avec le coronavirus, quand il y avait une personne qui était malade dans une famille, il était isolé, tout ça, et on le mettait dans une pièce. Il devait être en quarantaine, mais ça durait que quelques semaines. Mais pour le cas de Naaman, c'était tout le temps. Il devait y avoir cette séparation et la façon de vivre la vie de famille devait être vraiment difficile pour eux. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que la petite servante, elle affirme que le prophète qui est à Samarie fait des miracles. Par lui, Dieu avait stoppé les eaux du Jourdain. Il avait purifié une source qui était impure. Il avait sauvé une veuve de la famille. Il avait même ressuscité le fils d'une dame qui habitait à Sunem. Alors, notre petite servante est remplie de foi et d'espérance pour Naaman. Si seulement il pouvait rencontrer le prophète qui était à Samarie, il serait guéri. Hélas, Samarie, c'est bien loin. C'est bien loin de Damas. Et puis, les Syriens sont des ennemis d'Israël. Comment pouvoir aller dans ce pays étranger? L'Éternel est un Dieu, le Dieu d'Israël est un Dieu redoutable. C'est le Tout-Puissant. Pourquoi le Dieu d'Israël guérirait-il un incirconcis, quelqu'un qui ne fait pas partie de son peuple, un idolâtre? Mais la petite fille arrive à convaincre Naaman, à convaincre sa maîtresse Naaman et même le roi du pays. Et comment cela est-il possible? Bien sûr, peut-être à cause de la réputation qu'avait l'Éternel des armées aux oreilles de toutes les nations qui entouraient Israël. Mais je crois que certainement, ce qui a fait que Naaman a eu confiance dans la parole de cette petite fille, c'est en la voyant vivre. En la voyant vivre dans la maison. Et on voit en effet qu'elle n'a pas de rancœur. Elle a été pourtant arrachée à sa famille, à son pays. Et elle a été transportée dans un autre pays qu'elle connaissait pas. Et là, elle doit être comme une servante. Elle n'a pas de rancœur. Elle veut le bien de Naaman. Elle veut le bien de son maître. Et donc, ce devait être une petite fille qui a parlé par sa vie de tous les jours à Naaman et à son épouse. Une petite fille qui a parlé de l'Éternel et qui a vécu sa foi, une foi certes d'enfant, mais une foi authentique, une foi qui porte des fruits. Et je crois que c'est là ce qui a dû convaincre la maîtresse et Naaman que oui, vraiment, ce que dit cette petite fille, il faut vraiment l'écouter parce qu'elle est vraiment différente. Hein, elle est vraiment différente. Elle a de la foi. Alors, voilà où nous en sommes. On va lire la suite de notre histoire, dont les versets suivants. Naaman va trouver le roi et lui raconte ce que la jeune Israélite a dit. Le roi lui répond, « Va là-bas, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. » Alors Naaman part et il emporte à peu près 300 kilos d'argent, 60 kilos d'or, 10 habits de fête. Et il remet la lettre à son roi, de son roi au roi d'Israël. Voici ce que le roi de Syrie a écrit. Donc ça c'est la lettre qu'il a reçue, le roi d'Israël. Avec cette lettre, je t'envoie le chef de mon armée, Naaman, pour que tu le guérisses de sa lèpre. Quand le roi d'Israël a fini la lettre, il déchire ses vêtements et dit, est-ce que je suis Dieu moi? Est-ce que je peux faire vivre les gens et les faire mourir? Le roi de Syrie m'envoie un homme pour que je le guérisse de sa lèpre. Vous le voyez, il me cherche des querelles. Alors le bon plan qu'avait prévu Naaman ne fonctionne pas bien. Il avait prévu d'avoir l'appui du roi pour pouvoir l'introduire auprès du roi d'Israël, pouvoir, et il avait pris avec lui beaucoup d'argent pour s'attirer les faveurs du roi, du prophète, hein, pour être pris en considération, et il était parti avec la bénédiction du roi. Alors, tout semblait bien, tout semblait réglé, hein, pour faire réussir ce voyage, mais ça ne s'est pas du tout passé comme prévu, on l'a bien de le lire, hein, quand le roi d'Israël a reçu cette lettre, ah, il a déchiré son vêtement, le plan de Naaman était complètement tombé à l'eau à ce moment-là. Mais celui qui régnait en Israël, c'était pas le roi Joram, c'était l'Éternel. C'était lui, le vrai souverain auquel Naaman devait s'adresser. Lisons la suite. Élisée, l'homme de Dieu, apprend que le roi d'Israël a déchiré ses vêtements et lui fait dire, « Tu as déchiré tes vêtements? Pourquoi donc ?» Naaman n'a qu'à venir me voir. Il saura qu'il y a un prophète à Israël. Naaman arrive avec son char et ses chevaux et il s'arrête à l'entrée de la maison d'Élisée. Élisée envoie un messager pour lui dire, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, alors tu seras guéri et tu deviendras pur. » Naaman se met en colère. Il part en disant, « Je pensais le prophète va sûrement sortir de chez lui. Il se présentera devant moi. Il priera l'Éternel son Dieu. Il passera sa main sur l'endroit malade et il me guérira de ma lèpre. Est-ce que les fleuves de Damas, la Bana et le Parnac ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Je pouvais bien me laver en Syrie pour être pur, si cela avait été suffisant. » Alors, Naaman rencontre Élisée, donc. Alors, il arrive, il gare son char devant la maison. Alors, arriver avec un char, à l'époque, c'est comme arriver en hélicoptère aujourd'hui. Vous arrivez à quelqu'un qui vous visite et puis il arrive avec son hélicoptère. Ça impressionne, ça en jette. Hein. Mais Naaman, Élisée, lui, l'envoie que son serviteur pour parler au grand général qui était venu le voir. Non, Élisée ne se déplace même pas. Et donc, il s'agit de se laver 7 fois dans le Jourdain. Non, Naaman se met en colère. Comment cela est-il possible? Voyons voir la suite. Naaman repart, il est très en colère. Mais ses serviteurs s'approchent de lui et lui disent, « Maître, si le prophète te commandait une chose difficile, est-ce que tu ne le refuserais ?» Eh bien, quand il te dit de te laver pour devenir pur, écoute-le. Alors, Naaman descend dans le Jourdain. Il plonge 7 fois dans l'eau, comme Élisée lui a commandé. Sa peau est de nouveau comme celle d'un petit enfant. Et il devient pur. la guérison de Naaman. Donc, après avoir écouté la petite fille, maintenant le grand général doit écouter ses soldats, ses serviteurs qui sont là. Hein, c'est eux qui ont la solution pour lui. Et donc, il va avec toute sa troupe au Jourdain, c'est à 30 kilomètres de là. Et là, eh ben, il fait ce que lui a dit le prophète. Hein, on peut imaginer tout le monde l'observe. Et une fois, il se plonge, il se lave. Et une deuxième fois, il se plonge, il se lave. Jusqu'à la septième fois où enfin, bah, toutes les taches sont parties, sa peau est redevenue saine. Alléluia, hein, alléluia, gloire à Dieu. Alors, est-ce que la clé de la guérison se trouvait dans l'eau du Jourdain, qui avait été une eau miraculeuse? Non, certainement pas. C'était dans l'obéissance à ce que disait le prophète. Simplement et bêtement, le général devait obéir, devait faire ce que l'homme de Dieu avait dit. La foi dans la parole de l'Éternel. Tout est là pour la guérison de Naaman. Et donc, on peut l'imaginer avec une peau toute neuve, hein, mieux que celle d'un homme de son âge. Il a une peau comme celle de sa petite servante. Hein. Dieu fait les choses à merveille. Et après cette guérison, ah ben, Naaman va se convertir. Voilà la suite de notre récit. Naaman retourne chez l'homme de Dieu avec tous ceux qui sont avec lui. Il se tient devant l'homme de Dieu. Maintenant, je le sais, sur toute la terre, il n'y a aucun Dieu sinon celui d'Israël. Je t'en prie, accepte le cadeau que je t'offre. Élisée répond, l'Éternel que je sers est vivant, je n'accepterai rien. Naaman insiste encore, mais Élisée refuse. Alors Naaman dit, puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi au moins d'emporter de la terre de ce pays. J'en ferai charger 2 mulets. En effet, j'offrirai des sacrifices complets, des sacrifices de communion, seulement à l'Éternel et non plus à d'autres dieux. Mais je demande pardon à l'Éternel pour ceci. Quand mon maître le roi de Syrie entre dans le temple de son dieu Rimmon pour prier, il s'appuie sur mon bras. Alors moi aussi, je dois me mettre à genoux devant l'idole. Que l'Éternel accepte de me pardonner ce geste. Et Élisée lui répond de cette parole magnifique, la seule qu'il avait besoin d'entendre. Tu peux partir en paix. Et donc, Naaman s'en va. On voit l'attitude de la venue du retour de Naaman devant le prophète, hein, d'une façon différente. Maintenant, il va se prosterner et le prophète Élisée va venir pour lui parler. Et il ne va pas être astreint à suivre toute la loi de Moïse. Simplement, il pourra adorer l'Éternel chez lui, à l'extérieur du pays d'Israël. Dieu fait de grandes choses et a fait de grandes choses pour Naaman. Le suite du texte, comme l'heure tourne un peu, on n'aura pas le temps de la lire, concerne Géazi, le serviteur, qui a couru en cachette après Naaman pour lui réclamer de l'argent et qui a reçu de l'argent, qu'il a caché et puis après il est revenu devant le prophète. D'où viens-tu? Je suis allé nulle part, a-t-il répondu au prophète. Mais Dieu avait révélé qu'en fait il mentait et il avait été chercher de l'or et des cadeaux que Élisée avait refusés. Et donc tout de suite, la lèpre lui est tombée dessus, hein, après ces paroles du prophète. Est-ce que je n'ai pas vu en esprit un homme sauter de son char pour aller à ta rencontre? Mais ce n'est pas le moment d'accepter de l'argent pour acheter des oliviers et des vignes, des moutons, des bœufs, des serviteurs et des servantes. En effet, la lèpre de Naaman va s'attacher à toi et aux enfants de tes enfants pour toujours. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce texte? Dieu est ouvert. Dieu est un Dieu qui est ouvert. C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, versets 16 à 30, vous pourrez lire ce passage, il vient prêcher dans la synagogue de Nazareth et Jésus est repoussé, mis dehors, parce qu'il n'est pas reconnu comme un prophète de l'Éternel dans son pays, dans son village. Jésus cite cette histoire, à ce moment-là, cette histoire de Naaman. Il dit, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais c'est Naaman, le Syrien, que Dieu a choisi de guérir. Jésus a dit, tout ce que le Père me donne viendra en moi, et je ne mettrai pas dehors ceux qui viennent à moi. Dieu est ouvert, mais nous, on est souvent fermés. On aime bien que les gens se convertissent. Mais ce qu'on aime bien, c'est déjà qu'ils soient comme nous, qu'ils soient pas différents. Et ça, pour nous, c'est plus facile. Mais quand il y a des gens qui raisonnent pas comme nous, qui sont de notre culture, qui sont pas habillés comme nous, qui font pas comme nous, qui sont pas le même âge ou quoi est-ce, ça nous pose des difficultés. C'est Dieu qui a choisi de délivrer les Syriens par Naaman et de guérir ensuite de la lèpre. Dieu est ouvert et nous, ne sommes-nous pas souvent si étroits? Un autre enseignement, c'est que Dieu répond à la foi. Dieu répond à la foi. Jésus a dit que, voilà, il faut ressembler aux enfants, que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. On a ce magnifique illustration de la foi de cette petite servante. On ne connaît pas son nom, mais pourtant ce qu'elle a fait est géant. À cause de la foi, à cause de sa foi, Dieu a amené un païen à la conversion, à la guérison, puis à la conversion. Quelqu'un qui n'était pas d'Israël. Bien avant même que Jésus envoie le Saint-Esprit, bien avant que Corneille reçoive l'Esprit Saint, lui qui était un Romain avec toute sa famille. Dieu a répondu à la foi de cette petite servante. Elle était en Syrie, elle était loin. Elle était loin de chez elle, loin de l'Éternel, on pourrait dire. Mais voilà ce que Dieu a fait pour répondre à sa foi. Il a fait que dans sa maison, là où elle servait, on allait adorer l'Éternel. Et même, il va y avoir une pièce avec de la terre d'Israël dessus, et elle allait être un petit peu comme à la maison, dans sa maison de Syrie, elle allait pouvoir adorer l'Éternel avec sa maîtresse et avec Naaman. Dieu répond à la foi. Dieu répond à la foi personnelle. C'était Naaman devait lui aussi placer sa foi dans le Dieu d'Israël. Et là on le voit, il a disparu sous l'eau, il s'est plongé. Il n'y a que lui qui pouvait se laver, il n'y a que lui qui pouvait se plonger dans l'eau, personne d'autre. Et Dieu a répondu à sa foi. Il faut une foi personnelle. Et également, on peut voir que Dieu fait des miracles pour conduire à la conversion. Alors, c'est pas toujours le cas. Mais dans son évangile, l'apôtre Jean appelle les miracles des signes. Ce sont des signes qui nous sont adressés de la part de Dieu. Jésus avait parlé de deux miracles quand il était dans la synagogue. Il a parlé de Naaman et il avait parlé également de la veuve de Sarepta. Elle aussi était étrangère au peuple d'Israël, et Dieu, Élie, le prophète Élie avait été envoyé vers elle pour la nourrir. Et les deux, Naaman et cette veuve, se sont convertis. Alors si Dieu est intervenu miraculeusement un jour dans votre vie, Avez-vous continué votre vie comme avant? Hein? Vous savez que Dieu est intervenu, mais avez-vous continué votre vie comme avant? Jésus avait guéri, vous savez, 10 lépreux qu'il avait rencontrés sur son chemin, et il n'y en avait qu'un seul. Un seul qui était revenu pour lui dire merci. Un seul seulement. Et les 10 autres, quoique guéris, ne s'étaient pas convertis au Seigneur. Hein? Donc, les miracles, oui, mais ils sont là pour nous conduire vers Dieu, hein? Pas pour seulement pour notre confort. Et enfin, le dernier enseignement, c'est que Dieu est saint. Avec l'affaire de Géazi, Dieu est saint. C'est un Dieu 3 fois saint. Et quand on se proche de lui, il faut toujours avoir ça à l'esprit. Hein. Ce ne sera jamais, comment on dirait aujourd'hui, un copain ou quelque chose comme ça. Hein. Non, Dieu, il est saint. Et on doit avoir la crainte chaque fois qu'on veut s'approcher de lui. C'est voilà notre enseignement que j'avais retenu pour nous. Alors, pour les papas. Alors, je pense que les papas sont aussi des héros lépreux. Hein. On est tous quelque part, les papas, des héros lépreux. Hein. Comment un homme peut-il devenir un super-héros? Vous connaissez les super-héros? Il y en a plein, hein, toute une collection. On peut devenir un super-héros en devenant papa. Hein, tout simplement. Dieu a donné cette faculté au père quand ils sont quand ils deviennent papa, eh ben ils vont être les super-héros pour leurs enfants, hein. C'est les meilleurs, c'est les plus forts, c'est ceux qui sont vraiment formidables. Mais les super-papas ont tous des tâches. Ils ont tous des tâches qu'ils se voient et qu'il leur est impossible d'effacer. Ils sont pas parfaits, les papas. Mais on les aime quand même. Naaman a été guéri miraculeusement de sa lèpre. Alors, s'il était là, quel conseil donnerait-il au papa que nous sommes peut-être aujourd'hui? Alors, peut-être il donnerait le conseil d'écouter ses enfants. C'est la petite servante qui avait la solution pour Naaman, ce grand roi, ce grand général. Hein? Écoutez ses enfants, écoutez ce qu'ils disent, écoutez ce qu'ils disent à leur père, hein? Parce qu'ils nous parlent, nos enfants. Mais il faut avoir une oreille attentive pour savoir ce qu'ils nous disent. Et bien sûr, avoir la foi dans le Dieu de Naaman. C'est la parole, la foi dans la parole de Dieu qui a sauvé Naaman. Et c'est certainement la foi dans la parole de Dieu qui nous permettra à nous, papa, de nous débarrasser de notre lèpre qui nous handicape et qui nous coince dans notre vie familiale. Hein. Un troisième enseignement peut-être que Naaman aurait pour nous, ne pas compter sur ses propres forces et sur son intelligence. Hein, les papas, en tant que super-héros, se confient dans leur super-pouvoir. Hein. Hélas, ou heureusement, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Naaman avait bien calculé tout pour que son voyage réussisse, mais tous ses projets ont été modifiés. Tout l'argent qu'il avait pris a été inutile et nuisible même. Ça a été un piège pour Géazi. Dieu seul peut nous débarrasser de notre lèpre. Il faut laisser de côté notre force, nos capacités, nos talents. Dieu peut le faire. Naaman nous dirait certainement qu'il faut être humble. Il était arrivé à un hélicoptère de super-héros et ce n'était pas une bonne chose que d'arriver ainsi devant Dieu pour déposer notre requête. Les papas savent qu'ils savent tout, qu'ils ont les meilleures idées et que donc logiquement tout le monde doit les suivre avec joie et enthousiasme. Ne sont-ils pas de super-héros? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, nous rappelle Jacques. Satan veut nous faire croire que si on devient humble, on perdra tous nos super pouvoirs. Hein? On ne sera plus crédible. Mais c'est un mensonge. L'humilité va faire grandir les papas. Personne ne remettait en cause à Naaman sa position de général des armées. Mais concernant sa guérison, il devait écouter Dieu et il devait écouter ce qui l'entoure. Cinquième point, ne pas être attaché aux biens matériels. Est-ce le temps de prendre de l'argent, de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des servantes, des servants? Les échelles de l'ascension sociale sont toujours trop courtes. On commence à les franchir, mais elles sont toujours trop courtes. Il manque toujours des échelons à la fin. Et finalement, on n'est pas avancé. La seule échelle valable, c'est celle que Dieu nous envoie du ciel. Ne perdons pas de vue ce qui est réellement précieux. Pour Naaman, ce qui était précieux, c'est le chargement de terre avec lequel il allait rentrer chez lui. De la terre qui n'avait aucune valeur, mais qui pour lui était précieuse parce que ça allait lui permettre de rendre un culte avec sa famille. Il allait pouvoir ainsi adorer le Dieu trois fois saint. Et le contre-exemple, bien sûr, c'est Géhazi. On n'a pas lu son histoire. Ça vaut la peine de retrouver là à la fin de ce chapitre. Hein? Géhazi était bien placé. C'était un homme qui était proche du prophète. Il était tous les jours avec le prophète. Mais, hélas, il ne connaissait pas l'Éternel. Naaman a croisé quelques heures le prophète. Il s'est converti. Il a obéi à la parole de Dieu, et il a trouvé la guérison et il a trouvé la foi. Il s'est converti. Et Géhazi, qui vivait avec le prophète, lui n'avait pas compris qui était réellement l'Éternel, le Dieu d'Israël, et ce qu'il attendait de lui. Alors, voilà, l'histoire était peut-être balayée un peu vite, j'espère que vous en avez retenu l'essentiel. Dieu est ouvert. Dieu répond à la foi. Il répond à la foi personnelle. Dieu défait des miracles qui conduisent à la conversion et Dieu est un Dieu qui est saint. On va prier. Seigneur, qu'on est petit et que tu es grand. Que tu fais des choses incompréhensibles et mystérieuses. Tu as sauvé Naaman, ce général de l'armée d'ennemis d'Israël. Tu t'es révélé à lui, tu lui as fait grâce. Tu l'as pardonné, tu lui as permis d'exercer un culte sans être en Israël. Tu l'as guéri de sa lèpre, tu l'as réhabilité socialement. Tu as fait de grandes choses dans sa vie, dans la vie de sa famille. Et tout ça parce que une petite fille a eu foi en toi. Seigneur, que c'est émouvant. Combien tu fais de grandes choses. Tu tires de la louange, dis ta parole, de ceux qui sont à la mamelle. Ô Seigneur, on ne peut être qu'émerveillé devant ce que tu fais. Daigne aussi, nous aussi, nous prier pour nous les papas, on a tellement besoin de toi. On se croit tellement grand et on est tellement faible. On croit y voir tellement et tellement souvent, on est aveugle. Seigneur, merci de nous ouvrir les yeux, de nous guérir de ce qui ne va pas, qu'on porte sur nous, de nous faire faire des progrès dans la foi et que l'on... Ma prière et mon vœu, que l'on puisse en famille servir, honorer, adorer le Dieu trois fois saint. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Donc voilà.